L'histoire d'un rêve, c'est un peu ce que j'ai eu la chance de vivre quand j'étais à Thonon et que j'ai été au Palais Lumière pour revisiter notre expo Lumière, le cinéma inventé. Et puis, j'ai passé la frontière. Attention, passer la frontière, ça n'est pas n'importe quoi. Surtout que je peux vous dire qu'entre Thonon et le lieu où je me suis rendu, c'était 50 km de bonheur parce que je me disais, je vais découvrir autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Je vais laisser Annick en parler. Bonjour Annick.
Bonjour Alain.
Alors, qu'est-ce que ce lieu? Où est-ce que c'est? Dans quel pays c'est déjà?
Alors déjà, vous avez passé la frontière entre la France et la Suisse. Vous êtes en Suisse, vous êtes à Corvier-sur-Vevey. Alors Corvier-sur-Vevey, c'est juste à côté de Lausanne, au bord du lac Léman, pour ceux qui connaissent. Et on le sait un petit peu moins, mais à Corvier-sur-Vevey a vécu Charlie Chaplin durant plus de 25 ans, les dernières 25 années de sa vie. Qui pour lui ont été les meilleures années, ou en tout cas les plus sereines qu'il ait vécues. Parce que vous le savez peut-être, mais Charlie Chaplin était donc anglais. Il est né dans le sud-est de Londres. Et puis, il a eu toute la carrière qu'on lui connaît aux États-Unis, à Hollywood. Et enfin, en dernière partie de sa vie, il est venu ici poser ses valises avec sa grande famille, puisqu'il a eu 8 enfants avec Ona Olin. Et il a posé ses valises ici, au manoir de Ban, qui aujourd'hui est devenu le musée Chaplin, qui est devenu Chaplin's World, et ce depuis 2016.
Dites, comment est-ce qu'il a fait pour arriver dans ce petit village? Parce que c'est un petit village, Corvey.
Alors effectivement, Corvier-sur-Vevey, c'est un petit village. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est en 1952. Charlie Chaplin vient de réaliser sa dernière grosse production, c'est Limelight. Et il s'apprête à présenter ce film en Europe. Il embarque à New York à bord du Queen Elizabeth. Et après quelques jours en mer, il reçoit un télégramme de l'avocat général des États-Unis qui lui dit « Voilà, votre visa de retour ne sera pas renouvelé. Voulez à moins que vous ne passiez devant une commission. » Donc, comment s'est-il retrouvé en fait dans cette situation? C'est que Chaplin, à partir du moment où il commence à réaliser des films parlants, s'engage. Et pour les Américains, Charlie Chaplin était un communiste.
Exactement.
Donc, on est en plein, durant la chasse aux sorcières,
le
on est en plein
macartisme,
exactement, ouvert et autres. Et donc, Charlie Chaplin n'est plus le bienvenu aux États-Unis. Donc, quand il est sur ce bateau, il se retrouve en quelque sorte apatride. Il ne peut pas retourner dans ses studios aux États-Unis. Il laisse derrière lui sa maison, ses amis, une partie de sa famille. Donc, il arrive en Europe, il présente bien évidemment son film Limelight. Et là, il séjourne à Lausanne, dans un palace, c'est le Beau Rivage Palace de Lausanne. Et son frère, Sidney, qui connaît bien la région, lui fait découvrir toute cette belle région du Lavaux. Chaplin est totalement séduit. Et son chauffeur lui indique, après quelques jours en Suisse, qu'une maison est à vendre, non loin de Lausanne. Et donc, il vient visiter le manoir de Ban. Il a un coup de foudre pour cette magnifique demeure qui possède un parc juste incroyable de 15 hectares avec des arbres absolument splendides, une vue sur le lac et les Alpes, et il décide effectivement d'y poser sa valise. Il a trouvé un lieu pour un lieu de vie pour lui et sa grande famille.
D'accord. Ce qui est assez étonnant, c'est quand je dis c'est le rêve d'une vie, c'est d'où vient l'idée d'aller l'ouvrir? Parce que c'est quand même, on rentre quasiment dans son intimité.
Alors complètement en fait. Donc ce qui s'est passé, donc Charlie Chaplin vit au manoir de Ban de janvier 53 jusqu'à sa mort le 25 décembre 1977. Quand Chaplin décède, Ona reste seule au manoir, puis à son décès, à son tour, ce sont ses enfants, Eugène et Michael, qui viennent y vivre. Eugène et Michael, ils vivent ici avec leur propre famille. Ils se rendent compte que devant la grille du domaine passent régulièrement des cars de Chinois, de Japonais qui prennent des photos au loin du manoir, qui essayent de les interpeller, qui veulent absolument, qui souhaiteraient vraiment visiter cette maison. Et après quelques années de vie au manoir, Michael et Eugène se disent que peut-être ça vaudrait la peine d'en faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que le projet prend forme et qu'ils décident de vendre le manoir pour en faire un musée. C'est un projet qui aura pris plus de 15 ans en fait pour voir le jour.
Et derrière, il y a le musée Grévin, le groupe Grévin, la compagnie
exact.
Des Alpes.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, on va essayer de faire un peu, on va l'histoire du projet de manière un peu accélérée, puisqu'encore une fois, on parle de 15 ans. Quand Eugène et Michael décident de vendre le manoir, ils le vendent en fait à deux passionnés, un entrepreneur de la région qui s'appelle Philippe Mélan et un scénographe qui s'appelle Yves Durand. Et ensemble, ils sont absolument fans de Chaplin et présentent à la famille Chaplin un beau projet muséal qu'ils acceptent. Et puis ensuite, eux, ben, voilà, vont devoir aller lever des fonds, puisque le musée Chaplin est un musée privé, le financer. Donc on est sur 60 millions de francs suisses. Puis ensuite, une fois que le musée est quasiment finalisé, ils cherchent en fait une entreprise pour opérer ce site. Donc, eux n'ont pas l'expertise pour le faire et se tournent en fait vers la Compagnie des Alpes, société donc française, dont Grévin fait partie. Et Grévin, by Grévin en fait, a ajouté toute la touche scénographique du musée et notamment les personnages de cire qui sont largement aussi représentés dans la visite du musée, puisqu'on a plus d'une trentaine de cires qui représentent des personnages de la vie de famille de Chaplin. On voit sa mère, on voit son frère, mais également aussi des acteurs de l'époque qui vraiment participent à toute l'expérience incroyable de cette visite de Chaplin's World.
D'accord. Il y a trois lieux principaux. Il y a le manoir, le studio et le parc. Alors,
Exactement.
ce qui m'étonne un peu, c'est le studio. On propose de rire, apprendre et se divertir. Ouais.
Ah ben je sais pas, Alain, vous l'avez vu le musée, est-ce que ça correspond à l'expérience que vous avez vécue?
C'est vrai que j'ai rigolé, j'ai appris des choses que je n'avais pas découvert ailleurs, ce qui m'a quand même un peu surpris, et je me suis fait plaisir. Et ça, par contre, c'est pas marqué dessus. Je me suis fait plaisir. C'est que vraiment, je me suis retrouvé, même à voir certaines scènes d'une manière totalement différente, et à voir l'histoire, les coulisses. J'allais dire le derrière de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit toujours Charlot, on voit toujours la canne, on voit toujours la moustache, on voit toujours le petit chapeau. Mais on ne se rend pas. Il y a des fois où on oublie que c'est un être humain, un homme comme un autre, avec une famille et tout. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire et assez simple.
C'est vrai qu'il y a effectivement trois expériences de visite qui sont très différentes les unes des autres. Donc, on commence la visite par le studio. Donc, au studio, on va vraiment découvrir en fait toute l'œuvre cinématographique de Chaplin. On va commencer par être plongé dans la ruelle de son enfance, qui est aussi la ruelle qui est symbolisée dans un nombre très important de ses films, puisque le vagabond évolue dans un milieu très urbain. Donc cette ruelle, c'est le début, on va dire, c'est le point d'entrée le plus important pour découvrir en fait les
Oui,
films de Chaplin, puisque c'est là que se déroulent essentiellement les scènes les plus drôles de ses films.
et puis
Ensuite,
si je
on
peux me
va
permettre,
découvrir.
hein, peux
Oui.
permettre. Et puis ce qui est fou, c'est moi j'ai été plusieurs fois à Londres, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un plan de Londres où on voit où ses parents habitaient, où il avait habité, où est-ce qu'il a été à l'école. Et ça, quand on va à Londres, on ne le sait pas. Et là, on voit vraiment comme dire que le début de sa vie, c'était ça, quoi. Il a
C'est
navigué vraiment
vraiment.
dans des quartiers londoniens.
C'est vraiment ça. On est dans le sud-est de Londres, donc et on est plongé un petit peu dans une Londres à la Dickens. On voit la ruelle qui est quand même qui est sombre,
Exactement.
qui est couverte de suie. On est vraiment les parents de Charlie Chaplin étaient tous deux comédiens de music hall. Donc il a également aussi baigné dans cette atmosphère-là depuis sa plus tendre enfance. Et puis ensuite on déroule les films les plus emblématiques de Chaplin. Et puis le visiteur peut vraiment s'amuser dans les scènes des films. Donc il peut entrer dans la cabane de la rue vers l'or, par exemple, il peut la faire bouger, il peut s'asseoir sur le fameux siège du barbier du film Le Dictateur. Donc c'est vraiment un musée dans lequel on s'y retrouve à tout âge. Les enfants de 6 ans vont pouvoir vraiment jouer à Charlot avec le chapeau melon et la canne dans les décors de films. Et puis le cinéphile qui a l'impression de tout savoir sur Chaplin va quand même réussir à découvrir aussi des anecdotes ou des faits qui sont beaucoup, beaucoup moins connus du public et même des fans.
Tout à fait. Alors, petit détail, hein. Attention quand même si vous allez visiter, parce que dans la cabane, je veux que c'est la vraie cabane. Hein. Elle est vraiment sur. Je sais pas si elle est sur vérin ou quoi que ce soit, mais quand vous allez sur la gauche, elle penche à gauche, et quand vous allez à droite, elle penche à droite. Et elle n'est pas du tout stable. Hein.
Non, elle n'est pas du tout stable.
Et par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a la cabane, mais il y a aussi après le film, et on voit. J'allais dire tous ces trucs, tous ces montages qui existaient déjà à son époque. Hein. Je crois que c'était aussi l'un de ces trucs qui le passionnait, quoi.
Absolument. Donc, bon, Charlie Chaplin était vraiment un novateur dans,
pour moi,
dans
il
son
était d'avant-garde,
domaine.
Hein, carrément. Hein.
Il était complètement à l'avant-garde. Donc déjà, ben, lui, il a révolutionné aussi la manière dont on dirigeait les acteurs, parce que vous savez, dans les années au début du cinéma, en fait, on improvisait, c'est-à-dire qu'on avait une caméra sur un trépied et puis on disait action et puis les acteurs entraient, sortaient dans le champ un petit peu comme au théâtre. On essayait de trouver le gag en retournant les séquences les unes après les autres jusqu'à trouver vraiment le bon angle qui allait faire rire les publics. Et lui, au fil des années, va vraiment développer des scénarios, le jeu des acteurs, puisqu'on est face quand même à un génie du cinéma, on est quand même face à quelqu'un aussi qui est extrêmement perfectionniste et il veut être présent à tous les niveaux de production de ses films. Donc il va être acteur, producteur, il va être réalisateur, il monte lui-même ses films et il ira d'ailleurs même jusqu'à composer aussi la plupart des musiques de ses films.
Le manoir, donc là on rentre pas dans sa chambre, on rentre dans son bureau, on voit carrément des écrits qu'il a fait lui-même, on voit toutes ses inspirations, c'est assez impressionnant le manoir, on rentre chez lui.
Le manoir c'est très impressionnant parce qu'il a été vraiment conçu pour placer le visiteur, non pas comme un visiteur, mais comme un invité. Et je pense que ce qui différencie le manoir peut-être d'autres maisons d'artistes, c'est vraiment la faculté qu'ont eu les scénographes de faire entrer le visiteur chez lui, comme s'il pouvait surgir à n'importe quel moment dans le salon. Donc il n'y a pas de corde, on peut vraiment tout toucher, on peut s'asseoir sur son canapé, on peut toucher son bureau,
moi,
on peut feuilleter ses livres.
Moi, j'ai
non,
pas osé.
Non, on n'ose pas. Et alors, c'est vrai que c'est aussi assez incroyable de voir justement le respect qu'il y a pour les objets. Quand on a ouvert Chaplin's World, effectivement, encore une fois, il y a pas de limite. Hein. Le visiteur est vraiment invité à, ben voilà, comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, si vous souhaitez vous asseoir sur une chaise, vous asseyez sur une chaise. Les visiteurs peuvent le faire. Et c'est à l'exception de quelques rares objets, mais il y a vraiment pas grand chose. Et l'ancien directeur du musée me dit, mais c'est bon, dans une année et demie, le musée, il est détruit. En fait, on se rend compte à quel point les gens qui viennent ici sont extrêmement respectueux des lieux. Et c'est assez magnifique à voir. Donc on a un public de fans qui vient, on a un public qui vient aussi beaucoup plus jeune, qui vient découvrir Chaplin. Et même les enfants au manoir qui est quand même construit sur une scénographie, on va dire, plus classique, parce que forcément, bah, on est dans ses meubles, on est dans ses livres, on est dans sa salle à manger. Mais le fait que voilà, il n'y a pas de limite, on se sent vraiment dans la maison de quelqu'un et pas dans un musée. Et ça fait une grande différence en termes de visite et d'expérience.
Le parc, attention, là, il faut avoir carrément des baskets, il faut avoir fait je ne sais pas combien d'entraînements pour réussir à faire toute la balade. Non, j'exagère quand même. Le parc, il y a même une scénographie dans le parc, il y a même une balade à faire et on est dans la nature, on est toujours dans le même concept, toujours ce côté très, très doux, très calme, très serein.
C'est effectivement le mot, je pense, la sérénité. C'est vrai, c'est ce que Chaplin disait de sa vie en Suisse. Il a trouvé la sérénité ici au manoir de Bon avec sa famille. Et quand on se balade dans le parc, effectivement, il y a quelques panneaux indicatifs qui expliquent justement que là, c'était l'endroit où il aimait faire des barbecues, qu'il y avait la piscine, qu'il y avait un court de tennis. Et puis un petit peu comment il vivait ce parc. C'était un lieu qu'il adorait parce qu'il voyait les montagnes au loin. Ça lui inspirait encore une fois une très grande sérénité. Donc c'était vraiment un lieu. Et comme il a eu 8 enfants aussi, forcément, les enfants adoraient jouer dans le parc. On a aussi un arbre juste phénoménal qu'on appelle l'arbre de Michael Jackson, puisque Michael Jackson est venu en visite au manoir de Bon. Alors, Chaplin était décédé à l'époque, bien entendu, où Michael Jackson est venu, mais c'est un arbre phénoménal avec d'énormes branches qui touchent le sol. Et un arbre qui est très facile, on peut facilement grimper dessus. Et Michael Jackson adorait grimper sur cet arbre. Donc, il y a plein d'anecdotes à découvrir également aussi autour du parc, qui est un bel espace finalement de respiration et presque de méditation entre la visite du studio et celle du manoir.
Bon, je crois que l'actualité 2020 est quand même un peu chargée. Alors en ce moment, je crois que c'est fermé, c'est ça ?
Oui, alors on rouvre demain,
Ah,
donc
bah ça va alors, c'est les vacances en
samedi,
ce moment.
voilà, c'est, voilà. On a juste fermé quelques jours pour les travaux d'entretien annuel. En fait, je vais rouvrir nos portes demain, donc le 18 janvier. Et puis effectivement, on va enchaîner avec une très très belle programmation puisque cette année 2020, ça va s'inscrire sous le sceau de la musique. Donc on a intitulé cette année 2020 Music Times. Et on va inaugurer cette année avec un très joli concert piano-violon le 30 janvier. Bien entendu, ce seront des airs de Chaplin qui vont être présentés au grand public. Et puis, on va également accueillir dès le 13 mars une magnifique exposition qui est actuellement à la Philharmonie de Paris, qui s'appelle Charlie Chaplin, l'homme orchestre, et qu'on se réjouit beaucoup de présenter dans les combles du manoir de Bon. Les combles du manoir de Bon, c'est en règle générale un espace qu'on ne peut pas visiter, mais là, on y accueille en fait nos expositions temporaires. Donc une exposition sur la musique qui se tiendra du 13 mars jusqu'au 28 juin.
Attendez, Annick, là, j'ai pas très bien compris. Les combles, on ne peut pas les visiter.
Les combles, alors en règle
Je vais faire
générale
une
en fait.
scène de ménage, là. C'est-à-dire que je suis venu, je n'ai pas visité les combles. Mais
Non,
je vais carrément vous faire une scène de ménage quand même en pleine interview, là, hein.
Les combles sont effectivement en règle générale fermés au grand public parce que c'est un espace qu'on privatise, parce que tout le site peut être privatisé. Donc vous pouvez imaginer fêter votre anniversaire et privatiser par exemple le studio, faire votre mariage dans un décor de cinéma. Même le parc aussi
Tout
se
à fait.
prête extrêmement bien, aussi pour des locations pour des entreprises. Et donc les combles, c'est qui étaient les chambres des enfants. Sont devenus un immense espace voilà, qu'on peut utiliser pour des conférences et que nous utilisons régulièrement pour monter nos expositions temporaires.
D'accord. Donc, c'est le 13 mars.
Donc, pardon?
Cette exposition est prévue, elle ouvre le 13 mars, c'est ça?
Elle ouvre le 13 mars, exactement.
D'accord.
Et puis pendant la période de Pâques, on va avoir, tout comme l'année dernière, un immense, magnifique chapiteau de cirque qui va être monté durant 2 semaines. On a une très jolie collaboration avec une école de cirque de la région qui nous a été recommandée par Eugène Chaplin, le fils de Charlie Chaplin qui travaille dans le domaine du cirque. Et on aura 3 spectacles par jour autour de la musique de Charlie Chaplin et des numéros de cirque. Donc ça va être aussi un très joli moment.
Oh non, vous m'avez volé ma prochaine question. Alors, après, attention, maintenant, j'ai envie de venir faire un stage dans cet univers de Chaplin. Vous faites ce genre de choses? Ou c'est pas encore...
Un stage de quel type?
Cinéma, montage, musique, compréhension du cinéma, voilà.
Pour le moment, alors je vous avoue qu'effectivement, Chaplin's World a ouvert ses portes le 16 avril 2016. La première année et demie, voire quasiment les 2 premières années, on n'a pas tout à fait compris ce qui nous arrivait. C'était vraiment un succès fulgurant en termes de visiteurs, de fréquentation, de visibilité aussi médiatique. Et depuis une année et demie, on a enfin l'occasion un petit peu de travailler sur justement une programmation, comme là cette année 2020 Music Times. On est aussi en train de travailler sur la programmation 2021. Et effectivement, on réfléchit à monter des programmes pour le grand public, des stages sur le cinéma, sur la pantomime. Mais on ne manquera pas de vous en informer dès qu'on sera prêt, ça c'est
Eh ben,
sûr.
ah ben ça c'est super. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2020? Allez,
Un
le rêve.
public encore plus heureux que ce qu'on a eu jusque-là, parce que c'est vrai que pour nous, c'est fabuleux de travailler sur un site pareil où quand les gens quittent le studio ou le manoir, ils fredonnent des chansons de Chaplin, ils miment Chaplin et ils ont un immense sourire sur le visage et on espère juste que ça dure et que ça continue pour 2020.
Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis, nous, on reste toujours à suivre votre actualité. Elle est très belle. Et puis, qui sait, puisque je n'ai pas visité comme la chambre des enfants, je vais me sentir obligé de revenir. Là, je n'aurai pas le choix. Hein.
Absolument.
Je vous remercie en tout cas. Et puis, ah oui, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Pardon, j'allais oublier.
Ah, alors le site internet www.chaplinsworld.com vous donnera toutes les informations sur nos horaires d'ouverture, sur les tarifs, sur l'accessibilité. Donc on est encore une fois à Corvey-sur-Vevey, c'est juste à côté de Lausanne, à environ 1 heure de Genève en Suisse.
Eh bien, merci.
Merci à vous.